Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue à la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur. J'espère que vous allez bien. Et c'est notre première émission normale pour l'année 2014. Et pour ce faire, pour m'accompagner avec nous, Luc Desormeaux. Salut Luc.
Salut JB.
Comment a été le temps des fêtes?
Occupé.
Occupé?
Oui, parce que j'ai pas eu de vacances pendant le temps des fêtes, moi, donc je travaille toujours. Donc, le travail, les parties de Noël et tout ça, et au bureau, c'est vraiment très, très occupé pour moi ces temps-ci. Donc, mais ça a bien été quand même. Je suis toujours vivant, comme dirait Jerry Boulet, qui malheureusement ne l'est plus, là, mais bon.
Oui, c'est ça. Quel mauvais cas. Tu sais, comme Denis Malchaussée, là.
Ouais, c'est ça.
Un peu de gaming, un peu de films, un peu de trucs geek durant ton temps des fêtes?
Ouais, pas mal de films. Joué beaucoup à des jeux vidéo parce que mon fils a reçu une Wii U pendant le temps des fêtes. Fait qu'on a joué à Mario. Ma belle-maman s'est acheté le Mario 3D World, donc j'ai eu l'occasion de jouer avec ça et sacré aussi un petit peu. Puis aussi pas comprendre le but de certaines choses. Je sais que Daniel en avait fait la critique, là, mais c'est quoi le but de demander absolument à quelqu'un d'avoir 50 étoiles pour ouvrir le château? J'ai un petit peu de misère avec ça, là. Mais pour le reste, un jeu bien ben amusant, puis les Skylanders aussi. Que
à 50 dessus. Étoiles, ça se transforme en clé. Je sais pas, c'est comme un alchimiste.
Ouais, c'est pas du monde qui nécessairement veulent trouver les maudites étoiles qui jouent à ces jeux-là. C'est ma belle-mère, elle veut juste passer à travers. Puis elle veut se rendre au bout, puis elle veut voir que cette fois-là, au moins, c'est pas une maudite princesse qu'elle sauve. Mais, tu sais, elle arrive au château. Le premier château, ça te prend 10 étoiles. Fait que là, faut que tu retournes faire tous tes tableaux pour trouver les 10 étoiles. Les 10 maudites étoiles, il y en a qui sont faciles à trouver. Il y en a qui sont un petit peu bien cachés, mettons, là. Fait que j'y ai trouvé les étoiles, j'ai dit où ce qu'il était, j'y ai même passé le tableau. Fait que ça, c'était pas trop pire, là, mais c'est ça, j'ai juste trouvé ça un petit peu bizarre. Je sais pas si c'est pour rajouter de la difficulté au jeu, mais c'est le mot du ton intro, fait qu'on peut-tu passer à d'autres choses.
Luc aime pas avoir le
photo. Ben non, c'est parce que je suis comme pas tout seul, tu sais, dans ce show-là, il y a toi, puis il y a moi, puis il y a l'autre.
L'autre, là, genre Daniel Carasala?
Genre le grand, là.
Lui, là.
Ouais, genre moi.
Salut, Daniel.
Allô?
Même question que tantôt pour Luc. Toi, ton temps des fêtes?
Il écoutait pas.
Ouais, non, c'est ça. J'écoutais pas. Non, pas très bien. Pas très bien, ce temps des fêtes, là.
Ah ouais?
Malade, deuxième commotion cérébrale en deux mois, donc...
Comment ça, deuxième? Arrête d'aller à la salle de bain, man.
Non.
Tu pour les Canadiens, tu ne l'as pas dit. Hein?
Ouais, non.
Tu es George Barrows?
Non, pour vrai, je sortais mes poubelles et j'ai sacré le cap du deuxième étage, fait que ça a été ma deuxième commotion.
Les escaliers ou en bas du balcon?
Non, des escaliers. Fait que oui.
S'arrêter en bas du balcon, je dis, ouais. Il fait tough en tabarnouche.
Non, c'était des escaliers, mais tu sais, escalier intérieur d'appartement, donc.
Deuxième commotion. Il y avait un mur en bas de l'escalier, fait que en plus, t'as frappé le mur.
Non, il y avait surtout un plancher, puis il y avait des voisins à côté qui se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est ça, je suis atterri sur des sacs de poubelle et j'étais crampé ben raide en bas, ça là.
Ah ouais?
Ouais.
Malgré t'en souviens pas, on te l'a raconté?
Ben, je m'en souviens, là, mais je me souviens surtout que j'avais des bleus partout sur les jambes. Ça a fessé.
Tes voisins ont sorti des petites pancartes avec un 9.5, 8, 7, non?
Écoute, le pire, là, c'est que dans mes escaliers, il n'y a pas un soulier qui a bougé. Je suis tombé dans le centre, là, mais vraiment, là, c'était symétrique.
C'était le compas dans l'œil.
Ah, vraiment, vraiment.
Si vous avez un cadeau à acheter à Daniel pour l'année 2014, une canne serait la bienvenue.
Non, un casque d'hockey.
Oui, aussi.
Mais la question que je commencerai à me poser, si ça arrive une troisième fois, est-ce que ta blonde t'aime encore?
Parce que moi, je sais juste que si je me rends à l'hôpital, il y en a qui vont se poser des questions sur ma relation de couple.
Peut-être. C'est inversé. C'est elle qui le bat, lui.
Et qui le pitche partout pour toucher son assurance-vie.
Ouais. on ne sait jamais.
Non, je sais pas.
Donc, ça a été tranquille côté geekitude, plus soigné des bobos que d'autres choses.
Non, très tranquille. Je sais pas si vous avez pogné le rhume cette année, mais il est tough. Il te cloue vraiment au lit. Fait que j'ai pogné ça dans le temps des fêtes. Donc, niveau gaming, j'ai joué à Rise Son of Rome sur ma nouvelle Xbox One. Donc, mais ça s'est pas mal limité à ça. J'ai plus regardé de films durant le temps des fêtes.
D'ailleurs, ta première chronique de films sur la réalité augmentée, tu vas explorer un nouveau territoire?
Ouais, je vais peut-être me faire mettre à la porte aussi, mais oui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort.
Tu vois comment est-ce que je sais ce monde-là avec une, tu sais, une gant de fer, tu sais, avec une pogne, tu sais, parce qu'ils ont peur de se faire mettre dehors tout le temps. Je suis donc bien méchant.
On est toujours celui qui vive.
Moi, je t'appelle régulièrement dans ma vie privée le bourreau de ma vie, donc.
Le maître absolu.
Non, le bourreau.
Bourreau, ok.
Ouais, le bourreau, parce que t'es comme représentatif des côtés négatifs de ma vie, donc le bourreau.
Ouais, puis quand ils sont debout, un à côté de l'autre, c'est comme voir Gandalf à côté d'un Hobbit.
Ouais, exactement.
Que sauf que j'ai des souliers. C'est la seule différence.
Ouais, puis on t'en est très gré de porter des souliers.
Ah, ok, bon.
Merci pour ça.
Je vais y aller avec mon temps des fêtes à moi. J'ai écouté quelques films, mais surtout, j'ai fait du rattrapage de gaming. Daniel a écrit entre autres un texte sur le site internet de Histoire, Affaires de gars. Et sur le backlog, tu sais, oui. Notre liste de jeux là, qui est interminable, qu'on traverse jamais. Et là, je me suis dit, j'ai le temps là, dans le temps des fêtes. Fait que j'ai fait du rattrapage. Trois jeux que j'avais déjà entendu parler, qu'on avait fait de la critique dans le cadre de l'émission, mais des nouvelles versions qui sont sorties, sont disponibles sur des nouveaux supports, des choses comme ça. Plus un petit jeu indépendant que j'ai trouvé sur le web grâce à jeuxvideo.com. Donc, je vais vous faire la critique de quatre jeux cette semaine. On va faire ce cours short and sweet parce que c'est trois fois sur quatre des choses qu'on a déjà parlé. Mais je pense que ça vaut la peine d'y arriver avec un petit rappel parce que c'est des excellents titres.
Parce qu'on était parti pour un show de 4 heures, là.
Non, on va se retenir. Là. Déjà qu'on a fait un 2 heures, l'épisode 50, notre premier, les trois face-à-face, faut revenir plus à notre épisode. Fait que,
j'ai encore des séquelles puis des tics de
ça. Je sais. C'est probablement ça la raison des commotions cérébrales de Daniel.
Ça se peut. Ébranlé. C'est pas du tout ça. C'est comme un anévrisme qui a explosé, qui s'est créé pendant le show puis qui explose un par un de temps en temps.
Oh, non, mais c'est parce que quand j'étais des escaliers, j'ai repassé à ce show-là puis là, j'ai perdu pied. Écoute.
Il a fait un blackout.
Ah, vraiment.
Hey, avant qu'on décolle le show officiellement, je veux faire deux salutations. Premièrement, je veux saluer la gang de Podcast et Gumballoon. C'est un podcast sur les bandes dessinées et le cinéma. Tout ce qui est relié avec les super-héros, Marvel, DC, même des dessins animés ou des bandes dessinées qui ne sont pas nécessairement de super-héros. Ils en traitent un excellent podcast que je me suis tapé. Ils ont genre 80 épisodes. J'ai beaucoup écouté ça en gaiement durant mon temps des fêtes et dans mes déplacements. Et durant leur revue de l'année 2013, nous ont fait un shout-out comme quoi on était bien sympathiques. Donc, on leur renvoie l'appareil. Si vous nous écoutez, vous êtes amateurs de bande dessinée et de BD, à l'américaine ou encore à l'international, Podcast et Gumballoon, c'est pour vous autres, Sacha et Sébastien qui sont hyper sympathiques, que j'ai jasé avec eux beaucoup dans le temps des fêtes. Donc, peut-être éventuellement un petit épisode crossover là, à la sortie d'un film de super-héros. Là. On va peut-être s'organiser ça avec leur gang. Donc, c'est dans l'air, dans les projets.
Ça pourrait être cool.
Ouais, ça pourrait être intéressant d'accueillir plus de monde sur le show puis tu sais, se faire un gros party le geek le temps d'un épisode.
Bon, le prochain c'est Captain America ou X-Men, je suis pas trop sûr lequel des deux qui s'en vient en premier, mais c'est les deux prochains.
Moi quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de Captain America, fait que tu sais, je lui ai envoyé une petite missive en disant hey, Captain America, ça pourrait être cool.
Un beau film à planter.
On verra qu'est-ce que ça va donner. l'autre salutation, je veux saluer la gang de Radio H2O. Ça, c'est une chaîne de podcast sur Internet. C'est une web radio. Ils ont, dans le fond, un lecteur qui roule les émissions comme une une grille de programmation habituelle de n'importe quelle radio ou télévision. Et en plus, ben, ils offrent des shows téléchargeables en podcast. Donc, c'est tous des artisans qui font ça pour le plaisir, pour le fun. Et ben, on est maintenant dans la grande famille de Radio H2O qui ont décidé de nous accueillir. Il y avait de la place, puis ils se sentaient généreux pour aider des gens du tiers-monde, nous autres. Fait que, ben, on les remercie. Si vous voulez nous pogner en direct sur Radio H2O, on est là les samedis à 20h et en rediffusion les dimanches à 20h. Donc, votre week-end, les soirées, c'est avec la réalité augmentée que ça se passe. Radio H2O. Vous avez juste à taper ça là, dans Google, vous allez trouver ça très, très rapidement. Donc, c'est les deux petites salutations que je voulais faire avant l'émission.
Fait que le monde peut regarder les Canadiens perdre la télévision puis nous écouter en même temps.
Exactement. Donc, d'être heureux d'un côté et malheureux de l'autre.
Mais on ne dira pas lequel.
Exactement.
Vous rend heureux et quel vous rend malheureux. On va vous laisser ça décider pour vous-même.
On laisse le suspense.
Oui, oui.
Et là, ben, on va commencer avec la première chronique. C'est une petite idée que Daniel avait eue avant le temps des fêtes et on s'était dit, ouais, ça peut être intéressant. Un loser de la semaine parce que ça va nous permettre de décoller des discussions et d'avoir du fun. Et cette semaine, Daniel, tu t'attaques à une entreprise qui est vénérée, qui est saluée, qui est adorée par les joueurs, mais qui a une machine qui s'en vient, puis on se pose des questions sur la mise en marché.
Ben, écoutez, c'est pas trop dur à deviner. Je parle évidemment de Valve, donc qui a annoncé la semaine passée dans le cadre du CES 2014, dans le fond, c'est Steam Machine. Le problème avec Valve, c'est à deux niveaux. Pourquoi je ne nomme le loser de la semaine? C'est parce que d'un, Valve n'a pas annoncé sa Steam Machine, mais a plutôt laissé la place à 14 fabricants. Donc, 14 Steam Machines. Ouais, il y a eu 14 Steam Machines de dévoilés et entre des prix qui varient entre 500$ et 6000$. Donc, tu sais, c'est quand même pas donné, là, on s'entend.
La 6000, c'est l'équivalent de la Xbox One en or, là.
La Xbox One en or, je pense qu'elle vaut 10 000 livres. Okay. Fait que non, tu sais, quand même. Mais on s'entend à 6 000$ pour une machine. C'est cher, d'autant plus que, et ça c'est mon deuxième point, on sait même pas ce qu'elle va faire. Tu sais, fait que c'est quoi la différence entre une Steam Machine à 500$ et une autre à 6 000?
On a dévoilé des coques. L'apparence extérieure, puis on a dévoilé qui en fabriquait. Apparence qui peut différer, parce que s'il y a des nouveaux constructeurs, ben il y aura des nouveaux modèles. Donc, il y a rien de coulé dans le bâton, là, ça sert à rien.
C'est sûr que au niveau apparence, je pense que celle de Alienware, qui est 1500 ou 2000, je me rappelle pas exactement du prix, c'est la plus belle. Sauf que au niveau des capacités de la machine, on sait pas ce qu'elle va offrir de plus par rapport à celle à 500$. Là, il y en a qui sont mis à dire, ben exemple, la manette va être inclue, manette qui aura pas de joystick en passant.
La manette va être inclue. Ouais, la manette vaut 4000.
Ouais, c'est ça, tu sais, la manette vaut... Mais c'est ça qu'on sait pas, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans les machines les plus dispendieuses, tu sais? Puis est-ce que ça va faire en sorte que là, quand tu vas vouloir faire rouler un jeu, ben il va falloir que tu checkes les spécificités techniques de ta machine pour voir si ça va être compatible. Mais ça, on le sait pas, là, c'est de la spéculation que je fais.
Fait que dans le fond, tu viens de perdre l'avantage des consoles de justement pas avoir à te poser de questions à savoir si le jeu va rouler ou non sur ta machine.
Ben, peut-être que oui, peut-être que non, tu sais, parce qu'on ne sait pas. Fait que, tu sais, bref, on est sorti du CES, puis dans le fond, on avait beaucoup plus de questions que de réponses au niveau des Steam Machines.
Moi, j'ai une hypothèse, Daniel, hein. Je sais, quoi. C'est comme les câbles HDMI. Tu sais, tu peux en avoir au Dollarama à 1$, mais tu peux en avoir à 120$, genre, tu sais, avec des prises en or, toute la patente, là, avec du cuivrage, puis tressé à la main avec des Monster Cables. C'est le même câble, ça fait la même patente, mais il y en a un que tu te fais avoir.
Ouais, mais en même temps, OK, mettons un câble HDMI, puis oui, tu te fais avoir, puis tout, mais...
C'est peut-être ça, les machines. C'est peut-être, tu sais, le flafla qu'on va mettre alentour.
Ouais, sauf qu'en même temps, tu t'adresses à qui avec ces machines-là? C'est ça que je comprends pas. Tu t'adresses à qui? Là, puis honnêtement, sur mon compte Twitter, je lui ai posé la question. J'ai dit, je comprends pas à qui ça s'adresse. Puis j'ai eu comme réponse, ben, c'est parce que mon ordinateur est trop loin de ma TV. Fait que ça va me permettre de streamer parce que, dans le fond, mon ordi est dans une autre pièce. Et je vous en parlais hors d'onde, là, mais moi, ça m'a vaguement rappelé les humains de Wall-E qui sont plus capables de marcher. Là, on est-tu rendu là, tu sais, quand t'es même plus capable de te lever pour aller jouer à ton ordi dans une autre pièce?
Ben, je t'avoue que durant le temps des fêtes, j'ai magasiné ce genre d'affaires-là parce que mon ordinateur et la télé sont dans la même pièce. Sauf que ça se peut que moi, j'aie le goût de jouer sur ma console qui est sur la télé, mais ma blonde veut écouter la télé. Donc, j'aimerais ça pouvoir streamer ma console sur mon écran d'ordi et l'ordinateur sur l'écran de télé, dépendamment de qu'est-ce que lequel des deux veut faire quoi, tu sais. Ouais. Je pense pas que c'est dans cette optique-là que la majorité des gens l'imaginent, là, le concept.
Mais moi, c'est parce que j'ai l'impression que, en tout cas, si ça reste comme c'est là, puis déjà, quand tu sais qu'il va y avoir 14 versions de la machine qui vont être disponibles, j'ai l'impression qu'on va perdre des consommateurs. Tu sais, moi, je vois pas une grand-maman là, arriver au magasin puis dire « Oui, je voudrais une Steam Machine. Steam Machine. » Puis là, t'as le vendeur qui dit « Ben, vous en avez 14 modèles. Choisissez. » En tout cas, je comprends pas la stratégie de Valve. Puis je dois pas être le seul parce qu'il y a quand même eu beaucoup de commentaires qui étaient soit négatifs, soit mitigés. Tu sais, on savait pas trop. Fait que pour moi, c'est mon loser. Je pense que on avait une bonne opportunité du côté de Valve d'offrir quelque chose de différent. Puis on a un peu raté notre coup avec 14 versions d'une boîte.
C'est-tu qu'est-ce que ça me fait penser, Daniel? Ça me fait penser, tu sais, la fameuse réplique là, qui dit « diviser pour mieux régner ». Valve devrait diviser son nombre de Steam Machines pour mieux régner.
Ouais, j'avoue. Mais écoute, le pire là-dedans, c'est que Valve, en tant que tel, a pas présenté de machine. C'est comme si elle disait « Bon, écoute, nous, on développe le OS, on développe finalement la plateforme de distribution, mais pour le reste, ben arrangez-vous avec. T'sais, Valve offrira même pas sa propre Steam Machine. J'ai un peu de misère à cerner la stratégie derrière les Steam Machines. Je voulais écrire un article là, pour de vrai. Je voulais vraiment écrire un article pour clarifier le tout. J'étais tellement perdu que j'ai tout supprimé. J'ai dit je vais me planter. Ben, fait que tu sais, ça vous prouve à quel point là que on perd les consommateurs.
C'est du n'importe quoi, mais c'est ça. On va voir, c'est 14, il y en a 12 qui vont se planter, il va en rester 2. Puis après ça, Valve va dire, voici notre machine.
Ouais, c'est ça.
Pendant que ça va être marqué vente de faillite en avant de 12 des 14 compagnies, tu sais.
Est-ce qu'on va être capable d'acheter des Steam Machines en rebelle sur Steam?
Peut-être.
Les ventes de Noël.
Mais ouais, ça serait cool.
Le pire, c'est que Steam n'a pas dit que si tu allais pouvoir monter ta propre machine aussi, puis juste downloader l'OS.
Sûrement.
Parce qu'on s'entend-tu que...
Si c'est un PC, oui.
Mais tu sais, on s'entend-tu que la machine à 6000, là, elle va avoir des processeurs de l'enfer, de la mort qui tue, avec une carte vidéo de l'enfer, de la mort qui tue, puis de la mémoire, puis 12 terabytes de 10 durs, puis tu sais, une affaire de malade, j'imagine, là. Mais on s'entend-tu que tu peux te monter une machine toi-même pour un prix raisonnable si tu peux avoir l'OS? Là?
Ouais.
Ça devient compliqué.
Mais c'est ça, tu sais, nous-mêmes, tu sais, on est des moyens connaisseurs, ou des, en tout cas, on va dire, puis on est perdu là-dedans. Imagine ceux qui connaissent pas ça partout, là, c'est, en tout cas.
Des moyens connaisseurs ou des bons idiots, c'est ça, là.
Ah, oh, j'aime ça.
me semble que le but de la patente, ça aurait été de vendre la Steam Machine à peu près d'un prix d'une PS4 puis d'une Xbox
ben
One.
Oui.
Puis ouais. Là, t'aurais peut-être pris le marché parce que le monde aurait dit « Bon, ben, je m'achète une Xbox One, je m'achète une PS4 ou je m'achète un Steam Machine, puis là, je peux tout rouler ce que j'ai dans ma bibliothèque de Steam, tu sais, sur ma TV. Ah, OK, moi, c'est une bonne idée. » Mais là, je veux dire, t'sais, ça part à 500$. Tu peux avoir une PS4 pour moins cher que ça.
Ouais.
Je sais pas.
Fait que voilà. Ah, je savais que ça allait donner une bonne discussion.
Ben, yes. Écoute, Steam Machine laisse personne indifférent. Dans l'univers du gaming, c'est clair que tout le monde surveille ce projet-là. Puis autant il y en a qui pensent que ça va être révolutionnaire, c'est le nouveau Jésus, que d'autres qui disent qu'ils vont se planter. Puis disons que les indices, pour l'instant, portent à croire que la deuxième option est celle qui va primer sur l'autre.
Ah, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en.
Ouais. Parlant de parler, Luc, je te cède la parole. Tu vas nous faire la critique de ton nouveau jeu, Splinter Cell Blacklist, que tu as pu tester. On a même eu l'occasion de jouer ensemble les modes coop, donc on va pouvoir jaser de ça ensemble.
Ouais, mais c'était plus ça, là.
Non?
Ben non, on a dit qu'on allait faire, j'allais faire le film parce que tu faisais quatre jeux, mon Terlitapuit.
Bon, fait que c'est quoi le film?
C'est Warm Bodies. Zombie malgré lui.
Ah, ah oui! Ah.
T'as-tu vu? T'as-tu vu?
Ah, écoute, c'est dégueulasse.
Comment ça,
attends,
c'est dégueulasse?
Attends, je suis pas sûr qu'on parle du même film. Là. Zombie malgré lui, c'est genre une comédie romantique.
Oh, ouais, oh,
ouais, c'est ça. C'est Roméo et Juliette avec des zombies. Là.
Mais tu l'as-tu vu?
Oh, ouais, je l'ai vu.
Ah, c'est bon. C'est super bon. J'ai résumé. On a acheté.
C'est mauvais.
Ah, non, chier, c'est mauvais.
En tout cas, on va s'assiner. Fait que là, je refais la présentation.
Ouais, tu refais la présentation, puis on recommence cela.
Je dis qu'on écoute un film, OK.
Ouais, ben on n'écoute pas un film, je fais la critique d'un film, parce que si on écoute un film, le podcast va durer 97 minutes de plus.
Ça serait le fun de faire un audio commentary sur un film, mais tu sais, live.
Ouais, que... on pourrait faire ça à un moment donné, peut-être. Ça serait notre spécial, ça notre spécial de l'année prochaine.
Ah, ça pourrait être drôle.
Spécial de Noël l'année prochaine, on écoute un film et on fait des commentaires live.
Ah, ça serait drôle. OK, on y va. Luc, côté chronique, tu nous arrives avec Warm Bodies, un film de zombies un peu particulier. C'est comme Roméo et Juliette, comme nouvelle ère. Là. C'est un film. Toi, t'as semblé aimer ça.
Ben. C'est vraiment bizarre parce que c'est un film dont j'avais entendu parler quand c'est sorti au cinéma puis tout ça, puis tu sais, il y avait eu des critiques, les critiques sont quand même assez bonnes et tout ça, mais j'avais pas été le voir au cinéma. Je me suis dit, c'est pas un film qui valait le 72$ que ça coûte aller voir un film au cinéma avec le popcorn et tout, donc je me suis dit, hey, peut-être un jour je vais le louer,
hypothéquer sa maison pour du popcorn,
c'est ça, ouais, assez. Donc je me suis dit, ben tu sais, un jour quand ça sortira en DVD on le louera, et puis bon, puis finalement c'est sorti en DVD et puis bon, ça a comme passé dans le beurre du popcorn, mettons. Donc on l'a pas loué, puis l'autre jour on était en train de faire du magasinage de Noël dans un magasin dont je nommerai pas, s'ils veulent que je les nomme, ils nous commanditeront. Et puis, il était dans les espèces de bins en métal en milieu de magasin. Puis, il était à 4,99. Ma femme, elle me donne ça. Elle dit, hey, elle dit, ça a l'air pas pire. Je dis, ben, regarde, à 5$, là, si on va le louer, ça va coûter ça. Fait qu'achète-les, puis au pire, on l'aura. Puis, ça fera un beau sous-verre. Donc, Warm Bodies, en français, c'est Zombie malgré lui. Donc, le titre français est un peu ordinaire, je trouve, parce que, bon, qui voudrait de lui-même devenir un zombie? Donc, un zombie, c'est toujours malgré lui. C'est pas une exception.
Il y a personne qui se coupe dans la masse de zombies, puis « Hey, mordez-moi! »
Ah ouais, mords-moi, t'es pas game, ah ouais, tu sais. Je veux être un être sans cervelle qui erre toute la journée. Mais non. Donc, je trouve, bon, le titre français est un peu ordinaire, surtout que Warm Body, c'est comme corps chaud. En la traduction, c'est donc zombie malgré lui, ça n'a pas rapport. Mais bon, mais si on tasse le film de côté, là, pas le film, le titre de côté, il y a pas vraiment d'acteur connu, donc l'acteur principal, c'est Nicolas Holt qui joue le rôle de R, qui est un zombie, puis il y a Teresa Palmer qui joue le rôle de Julie, qui est bon, l'actrice principale, puis le seul acteur vraiment qu'on connaît là-dedans, c'est John Malkovich qui fait le général de l'armée anti-zombie. Donc, le film a été tourné en majeure partie, si pas en totalité, à Montréal et aussi à l'aéroport de Mirabel pour les scènes d'aéroport où on commence le film. Puis j'ai trouvé ça, ben c'était super bien pensé.
Parce c'est le fun, ils n'ont pas eu à le vider.
Ben je disais, moi ouais, c'est, ils ont pas vidé l'aéroport, mais ce que je me suis dit aussi, c'est bon, tu fais un film de zombies, un film de catastrophe, un film où théoriquement la ville est totalement saccagée, ben ils ont pas eu besoin de défaire des rues et tout ça, c'est déjà tout prêt à Montréal avec les nids de poules et tout ça, donc ils ont sauvé plein d'argent ces effets spéciaux en prenant les rues de Montréal pour faire ce film-là, donc j'ai trouvé que c'était super bien pensé.
Alors, tu sais, économiser du budget, il y a pas juste les subventions du gouvernement là, qui aident, là.
Non,
Montréal, on a d'autres options, là.
Les roues pré-trouées, ça aide aussi. Donc, Warm Bodies, c'est, un zombie malgré lui, c'est l'histoire de R, qui est un zombie. Puis ce qui est bien dans ce film-là, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on suit le zombie. Le personnage principal, c'est le zombie. On suit pas les survivants qui essayent de survivre aux zombies. On suit un zombie. Puis c'est intéressant, le mec, c'est apporté, c'est que R, notre zombie préféré, il est capable de penser, il est capable de réfléchir, vraiment, son cerveau marche presque normalement. Puis, on l'entend pas parler parce que, bon, un zombie, ça grogne et tout ça. Mais on l'entend penser. Puis, il pense comme un être normal, sauf qu'il pense des choses comme, bon, une autre journée à errer, à rien faire dans l'aéroport, à me frapper contre d'autres zombies toute la journée. Puis, on se regarde juste avec un air qui veut absolument rien dire parce qu'on n'a aucune émotion. Puis, de temps en temps, on se grogne un après l'autre. C'est à peu près les journées les plus occupées d'un zombie jusqu'à temps qu'il parte à la chasse pour manger de l'être humain. Donc, c'est un zombie qui, pour pas faire de jeu de mots plate, erre dans un aéroport. Et il y a un ami qui s'appelle M, qui est un autre zombie. Puis c'est son meilleur ami. Là, ils ont des conversations de puis de choses comme ça, assis à un bar où il y a absolument rien à boire puis rien à manger non plus. Mais c'est ce qui est le plus proche de ce qu'un zombie pourrait avoir comme ami. Il se rencontre à tous les jours à la même place pour s'asseoir puis se grogner après un petit peu, ce qui est à peu près une conversation dans le langage zombie. Et puis, à un moment donné, bon ben, il y a son appartement à lui, R, qui est dans un avion. Il va dormir là. Il y a des CD. Il ramasse des choses d'un peu partout. Il va sortir dans le monde des humains à un moment donné pour chasser, puis il va ramasser des disques de vinyle. Fait qu'il va écouter de la musique. Il y a plein de petites choses qu'il collectionne, des boules de neige de Noël, des choses comme ça. Donc, il collectionne un peu comme un humain normal, mais il y a comme pas vraiment d'attache où il n'y a pas nécessairement de sentiment non plus. Donc, on rencontre aussi Julie, qui est le personnage, la femme fatale, ou la fille principale du film. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, puis les jeunes dans cet univers-là doivent sortir de temps en temps à l'extérieur de l'enceinte protégée des zombies, par le général qui est joué par John Malkovich, pour aller chercher du ravitaillement, des médicaments, des choses comme ça, à des places. Bon, on se demande aussi pourquoi des jeunes d'une vingtaine d'années, l'armée, je veux dire, qui est en arrière des portes, serait peut-être mieux équipée pour aller chercher ces affaires-là, mais bon.
Ouais, mais ils ont le gun, fait qu'ils décident.
C'est ça, fait que ça prend une histoire, tu sais, faut que t'envoies du monde à l'extérieur.
Parce que John Malkovich qui tombe en amour avec un zombie mâle, ça aurait été bizarre. C'est la seule raison pourquoi c'est une fille qui y va.
C'est peut-être ça. Donc, Julie part avec sa petite gang et son chum qui, lui, a vu ses parents se faire dévorer, tuer par des zombies. Bon, il y a beaucoup de gens traumatisés là-dedans. Bon, on le serait tous à voir nos parents ou frères, sœurs, amis, patrons se faire manger par des zombies. Donc, il est un petit peu sénère tout le temps. Mais il essaie de prendre le dessus du groupe parce qu'il a pris de l'assurance et tout ça. Donc, ils s'en vont pour chercher des médicaments et se font attaquer par une gang de zombies dont fait partie R et M. J'ai l'impression de parler d'une émission de Sesame Street. La lettre de la journée, R. Puis, bon, c'est ça. Fait qu'ils sont attaqués par ce gang-là. Commencent à, bon, tirer un peu pour se défendre. Ils tuent quelques zombies. R mange une balle en pleine poitrine, mais bon, le gars devait pas savoir ou devait pas avoir vu un film de zombies avant ou se faire dire que, bon, un zombie, tu les tires dans la tête ou ça sert pas à grand-chose. Mais bon, se fait tirer, tombe par terre, voit, bon, pendant ce temps-là, pendant qu'il est à terre, il regarde le carnage qui se passe, on voit des zombies qui mangent des humains. C'est pas tellement dégueulasse comme film, là. Il y a des petites passes, là, mais ça reste un film de zombies, mais c'est pas un film d'horreur en tant que tel. Donc, on va voir R qui est à terre, puis là, il voit Julie qui est elle aussi par terre en train de paniquer puis de se protéger. Puis là, il y a comme une espèce de connexion. Il la trouve de son goût, j'imagine, là, pour un zombie. Je sais pas comment ça peut se faire, mais en tout cas, il la trouve de son goût. Et puis là, il se lève pour s'en aller vers elle, tranquillement, en bon titubant comme un zombie le ferait. Et puis, le chum de Julie lui retire une balle dessus, ça le met en maudit, et il décide de pogner le chum de Julie et de le mordre, manger. R, ce qu'il fait, c'est que dans l'histoire, on nous apprend, ou on utilise le fait que un zombie, si tu laisses le cerveau de la personne que tu manges intacte, il se change en zombie. Si tu détruis le cerveau, il se change pas en zombie, ce qui est logique parce qu'on tire dans la tête des zombies pour les tuer. Donc, tout membre du Z-Unit, c'est ça. Donc, C'est un petit clin d'œil à Radio Talbot. Mais bon, donc...
ils ont besoin de notre visibilité, hein?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pauvre zone. Donc, c'est ça. Donc, il tue le chum de Julie et il lui mange la cervelle. En mangeant la cervelle, on apprend que les zombies font ça, pas nécessairement juste pour se nourrir, parce qu'ils peuvent manger la chair des humains, mais un zombie, ça ne rêve plus. Donc, en mangeant le cerveau de leur victime, ils réussissent à revivre les sentiments et revoir les souvenirs des personnes qui ont tué. Donc, R se paye un festin gracieuseté du cerveau de l'autre, et puis voit Julie, les voit ensemble et tout ça, puis il voit tout vraiment comme s'il était dans les yeux du chum de Julie, parce qu'il voit les souvenirs, donc ce que l'autre a vu avec ses yeux, puis là il voit Julie, puis il voit le petite intimité, puis ces choses-là, et tombe follement amoureux de Julie. Bon, ça pourrait être fin générique si c'était pas un zombie. Malheureusement, c'est un zombie. R va...
Si c'était pas un zombie, ben, ça serait un excellent film.
Ça serait une belle histoire d'amour, mais là, c'est un zombie. Il y a comme un petit problème, tu sais. Donc, R voit Julie paniquer et là, voit les autres zombies qui s'approchent de elle pour la manger. Ce qu'il fait, c'est il fait un peu... bon, non, j'irai pas là parce que ça va spoiler un jeu. Donc, il prend du sang de sur lui, puis l'étend sur elle pour changer sa senteur, pour qu'elle sente le zombie. Et puis là, il apprend avec lui, il prend par le bras. C'est sûr qu'elle panique, puis elle capote un peu, mais elle suit... parce qu'elle voit qu'il a pas essayé de la manger. Puis là, il la traîne par le bras, puis il la traîne avec lui pour dire « Gars, viens-t'en, suis-moi, et puis tout va être correct. » Donc, il l'amène avec lui à son avion pour la sauver. Et puis là, ils apprennent à se connaître. Puis là, on apprend un peu à voir le monde et des zombies et des humains. Puis il y a comme... à cause qu'ils mangent du cerveau, sont capables d'avoir certains sentiments et tout ça. Donc, c'est un film qui est intéressant, puis là, faut que j'arrête, parce que si je vais trop loin, je vais spoiler un peu ce qui se passe, même si vous savez déjà pas mal un peu ce qui se passe. C'est une comédie romantique, c'est pas un film de zombie en tant que tel, c'est pas un film d'horreur. J'ai trouvé la prémisse intéressante du fait que on voit le monde à travers les yeux de zombies. Il y a plusieurs... Un peu comme dans certains jeux de zombies, dans Dead Island ou dans Left 4 Dead, des choses comme ça, il y a différentes catégories de zombies. Il y a des zombies qui errent et qui marchent pas trop vite. Il y a des zombies là-dedans qui sont plus évolués, qui sont vraiment la dernière étape d'un zombie où il reste presque plus rien de la chair humaine. C'est vraiment plus... ça ressemble plus à un démon, quelque chose comme ça, qui peut courir très vite, puis eux mangent n'importe quoi qui détecte qu'un battement de cœur. Donc, s'il y a un humain qui passe dans le coin, c'est ciao, bye, merci beaucoup, bonsoir, c'est terminé. Donc, il y a plusieurs différentes étapes où un zombie va vraiment comme dépérir jusqu'à la fin où ce qui devient cette espèce de zombie démon-là. Mais j'ai trouvé intéressant, puis un peu drôle aussi le fait de R, de la manière qu'il réfléchit, les choses qui dit « j'aimerais faire ça, mais je peux juste pas », puis la coordination entre ses mains, puis des choses comme ça qui fait juste comme pas marcher, tu sais, il va essayer d'attraper quelque chose, puis par le temps qu'il essaie de l'attraper, c'est déjà passé, il réagit pas super vite, mais tu sais, c'est vraiment une comédie au début. Moi, souvent, je vais juger un film, je vais me faire des attentes sur un film avec la musique qui va commencer ce film-là. Puis, si je me serais fié là-dessus, j'aurais éteint le film tout de suite en partant, parce que la musique du début est vraiment en poche. Fait que je me suis dit, oh, belay, on est parti pour 97 minutes de quelque chose de très pénible. Puis finalement, on a ri, on a eu du fun, on a écouté ça en couple. Puis, moi, j'ai trouvé que c'était un bon, beau petit film. C'est pas extra dégueulasse, une coupe de passe de mangeage de cervelle, ou bon, ma femme s'en serait passée, mais à part de ça, c'est quand même pas si pire que ça.
Moi, j'ai trouvé que le rythme était très zombie, très lent.
Ben ouais, c'est ça, c'est pas... ils prennent leur temps, là. Mais...
Tu sais, j'aime beaucoup la portion où est-ce qu'on explique comment est-ce que c'est la vie d'un zombie, puis comment est-ce qu'il voit ça, puis les différents types de zombies. Mais comment ça que lui, il est capable de passer?
Mais t'apprends qu'ils sont toutes, qu'ils sont une gang à être capable de penser. Ils ont juste pas de sentiments. Fait que son chum M, il est aussi capable de penser. Mais c'est juste qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas se parler, ils peuvent pas communiquer. Mais il y en a tout plein. À un moment donné, t'envoies une gang qui se regarde un moment ensemble, puis tu comprends qu'eux autres aussi sont capables de faire ça. C'est pas tous les zombies qui dépérissent à la même vitesse. Ou puis là, ils expliquent dans le film comment ça se passe. Mais on va arrêter, parce que je veux pas spoiler le film. Si c'est un film qui vous a un temps que soit peu intéressé, je vous dirais louez-le ou achetez-le à 4,99$.
Dans
un bargain bin à quelque part. Puis c'est un beau petit 97 minutes. C'est bien fait. On s'aperçoit très rapidement que les effets spéciaux, bon, c'est du bon marché. Là, on n'a pas eu un budget incroyable. Le budget du film, si j'ai bien vu, là, le budget du film, c'était 35 millions. Puis ça a quand même récolté 116 millions. C'est presque 117 millions au box-office. Fait que ça a été quand même un franc succès. Non, il n'y aura pas de Warm Bodies 2, là, avec les mêmes personnages. En tout cas, le zombie malgré lui, une autre fois, je pense pas que ça va arriver. Mais c'est un film qui est c'est un ce qu'on appelle un feel good movie là. C'est un film que on se sent quand même bien à la fin, puis c'est très bien, puis c'est le fun de voir Montréal dans un film. J'ai resté super surpris parce que j'avais rien lu sur le film, j'avais pas été lire des critiques poussées, puis j'avais pas été voir où ça avait été tourné, tout ça. Puis à un moment donné, je regarde, je dis hey, c'est à Tour de la Bourse, ça. Hey, c'est le mille de la Gauchetière, ça. Pour un gars qui a travaillé au centre-ville pendant 8 ans, tu dis ah, ok. T'sais, fait que là, je me suis aperçu que c'était vrai. Ben ouais, c'est Montréal, ça. Puis à un moment donné, ils sont dans un stade. Hey, c'est le stade olympique, ça. T'sais. Puis, tu sais, fait que c'est le fun de voir ça.
L'aéroport, c'est pas celui de Mirabel, justement.
Ouais, c'est l'aéroport de Mirabel qui ont pris. Mais ça, c'est le fun. C'était vide en partant, tu sais.
Non, c'est ça. Ils ont pas eu besoin de. Tu sais, la ville était déjà scrap. Les effets spéciaux, ils ont sauvé. C'est ça qu'on disait tantôt.
C'est ça. Ça valait la peine. C'est pour ça que ça a juste coûté 35 millions à faire. Ils ont sauvé 40 millions ces effets spéciaux parce que la ville était déjà en décrépitude.
Ça, c'est le chèque qu'il faudrait payer pour mettre la ville en place.
C'est ça. Donc, tu sais, c'est un bon petit film. C'est pas le film de l'année. Ça a pas gagné d'Oscar. Ça n'en gagnera pas non plus. Les acteurs sont bons. On croit en leur rôle. Je trouve que le gars qui fait le zombie fait bien son travail. Je veux dire, on y croit jusqu'à un certain point. Là. Je veux dire, on regarde un film de zombies, on se dit pas « Ah oh, ouais, je n'ai rencontré un la semaine passée. » C'est exactement ça que ça a l'air. Tu sais. Mais tu sais, on croit à son rôle puis tout ça. Un beau petit 7 sur 10. Là, c'est pas, allez pas payer 35$ pour acheter ça en Blu-ray. Là. 4$ en DVD, ça fait le travail, ou louez-le. Et puis vous allez avoir un. C'est pas du temps perdu comme beaucoup d'autres films que j'ai vus dernièrement, donc Superman.
Bon, on va revenir là-dessus.
Non, on reviendra pas là-dessus, mais non, c'est ça. Superman, je l'ai dit, c'est parce que je suis très attaché au personnage que j'ai pas aimé ça. Avoir jamais vu un film de Superman de ma vie avant, j'aurais peut-être trouvé ça bon.
Peut-être.
Mais mes attentes étaient trop hautes aussi, et j'ai été amèrement déçu, mais pas de ça, j'avais aucune attente. C'est toujours bon de pas avoir d'attente des fois.
Ah, ma blonde, c'est la même affaire. En tout cas,
c'est exactement ça que je pensais aussi.
Daniel, sauve-moi. Viens-t'en avec un bon film. Louis Cyr, tu voulais nous parler du Blu-ray, justement, parce que, oui, le film, intéressant, c'est un bon film, film québécois. On n'est pas dans la catégorie des crazy, mais l'enrobage avec le Blu-ray, ça, par exemple, ça amène un autre couleur, ça ajoute un plus-value intéressant.
Ouais, ben, écoute, vu que j'ai été hyper malade durant le temps des fêtes, j'ai reçu Louis Cyr, donc le Blu-ray à Noël, fait que je me suis dit, mais quelle belle occasion de faire ma première critique cinéma et de me planter ben comme faut. Fait que, dans le fond, je vous parle du Blu-ray de Louis Cyr. Je vais vous parler selon deux volets. Je vais vous parler du film, puis je vais vous parler aussi des bonnies qui sont rattachés au Blu-ray. Donc, au niveau du film, je sais que je vais surprendre bien du monde, mais on suit l'histoire de Louis Cyr.
Ouais.
Mais là, il y a du monde qui disent, mais qui est Louis Cyr? Ben, justement, ce film-là, il fait pour vous. Parce que vous n'êtes pas seul à pas connaître Louis Cyr. Tu sais, Louis Cyr, là, je pense que c'est le grand héros obscur du Québec, tu sais. Dans le sens que, il n'y a pas grand monde qui connaisse vraiment son histoire à cet homme fort-là, là, qui a vécu vers la fin du 19e siècle puis un peu au début du 20e siècle. C'est pas une histoire qui est très, très, très connue. Il y a une biographie qui a été écrite par Paul Hall, dont je reviendrai un petit peu plus tard, mais qui est paru en 2005. Mais tu sais, c'est pas l'histoire, tu sais, c'est pas le frère André, c'est pas René Lévesque, tu sais, on connaît pas tant que ça le personnage de Louis Cyr, puis c'est pour ça que ce film-là a été fait. Moi, je vous dirais, aborder Louis Cyr comme étant un excellent film narratif un peu fictif.
Oui, parce que comme n'importe quel film basé sur des faits vécus, on romance, hein? On aide la cause.
Ben, on romance beaucoup, mais on saute aussi par-dessus plusieurs étapes de la vie de Louis Cyr. En fait, le film commence, Louis Cyr est pas enfant, Louis Cyr est jeune âge adulte, et dans la ville de Lowell aux États-Unis, et on voit dans ce quartier-là que les Canadiens français l'ont difficile, tout comme les fameux Irlandais. Irlandais qu'on dépeint beaucoup dans le film comme étant des roues qui aiment se battre. Donc, c'est comme ça qu'on décrit les Irlandais.
Je vois pas bien que ça serait pas vrai, là.
Ils ont-tu fait leur recherche en regardant Simpson?
Je le sais pas, mais écoute, je te jure, tu vois des Irlandais au début, là, puis tout ce qu'ils veulent, c'est boire, se battre, puis être roux, là, mais ça...
Ah, c'est dans leur volonté.
Sont-ils en train de se teindre roux?
Ouais, non, c'est ça. Fait que...
Ils portent le kilt tout le temps, tu sais.
Ouais, absolument. Non, quand même pas dans le film. Mais c'est dans le fond, on commence à suivre Louis Cyr quand il est dans le quartier pauvre de Lowell aux États-Unis, où les Canadiens français ont essayé d'avoir une vie meilleure qu'au Québec, ce qui a pas été le cas, même que ça a été pire qu'ici, parce que bon, il travaillait dans les usines dans des conditions assez misérables, merci. Et Louis Cyr est là et on va le suivre finalement dans sa première prouesse de force. Donc on entend qu'il a soulevé une caisse de 400 livres, mais à un moment donné, il y a un Irlandais qui va l'insulter et il va soulever une roche qui est évaluée, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme 517 livres. Donc, et c'est à partir de là qu'il y a un promoteur qui va qui va le voir et qui va se dire qu'il y a de l'argent à faire avec lui et qui va l'amener en tournée. Et c'est à partir de là qu'on va suivre Louis Cyr, donc dans ses exploits, dans toutes ses entreprises où il s'est fait flouer, parce que Louis Cyr s'est fait flouer plusieurs fois dans sa vie. Ça l'a pas empêché de devenir riche et célèbre au fil du temps, mais il a quand même vécu une coupe de crosse. Il y a du monde qui ont profité de lui. Donc, et on va finalement suivre sa vie, bon, à travers toutes ses épreuves de force. On va voir aussi qu'il va se faire une femme, il va avoir un enfant.
Il va se la faire comment?
Il allève. À un moment donné, il allève, hein. Tu sais, dans son, parce que je sais, JB, que tu l'as vu aussi, le film, mais, tu sais, dans son premier spectacle, là, tu le vois, il lève sa femme, ouais, avec le menton. Donc, c'est assez spécial de voir ça. Donc, on va suivre Louis Cyr jusqu'à la fin de sa vie où il va mourir d'une maladie que, en tout cas, si je me fie à la biographie, il n'y a pas vraiment.
Spoiler.
Wow, oui, spoiler. Mais...
Ouais, mais c'est comme le Titanic, tu sais, c'est parce qu'on sait que le bateau a coulé, c'est pas ça l'histoire, là.
Ah, mais... vous saviez pas que Louis Cyr est mort? Ah, okay.
Il s'en vient pas avec Titanic 2, non?
Oui, mais écoute, je me demande vraiment comment je vais faire, ouais, c'est ça.
Ça a été fait, ça.
Mais je reviens à Louis Cyr, c'est que ce qu'on dénotait, moi puis Daniel, quand on en a jasé, c'est le fait que, oui, on trace les grandes lignes de l'histoire de Louis Cyr, mais sur les parties qui desservent bien le propos, dans le sens que sont plus bons à utiliser pour un film. Tu sais, c'est le train-train quotidien de sa vie qui a été la grande majorité de ce qu'il a fait dans sa vie, on le met pas là-dedans. Exemple, le fait qu'il ait été policier, tu sais, le fait que Lowell, il est retourné parce qu'il s'était fait flouer, tu sais. Ça avantage pas le personnage dans le film, donc on passe à côté, tu sais.
C'est ça, puis il faut dire que le film est présenté comme étant un récit qui est faite par... tantôt, on s'en souvenait pas.
C'est Horace...
c'est Horace Barré.
Voilà.
Le nom. Donc, Horace Barré, qui était aussi... Probablement que si Louis Cyr avait pas existé, ça aurait été lui l'homme le plus fort au monde. En tout cas, au moins au Canada. Donc, et la vie de Louis Cyr est racontée par Horace Barré à sa fille Emiliana, la fille de Louis Cyr. Donc, c'est comme ça que c'est présenté. Et ce qu'on se disait, moi, puis JB, c'est que, dans le fond, on voit un peu la vision que Horace Barré avait de Louis Cyr, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de raccourcis qui ont été faits.
C'est une histoire de pêche aussi, tu sais, le poisson est tout le temps plus gros, là.
Ouais, ouais, non, absolument. Puis, tu sais, tu parlais entre autres du fait qu'il a été policier. Oui, il a été policier à Montréal dans la municipalité de Sainte-Cunégonde. Donc, qui existe plus aujourd'hui, d'ailleurs.
On est vraiment content. Ben, pas qu'on n'est même pas à place, là, mais...
c'est que ça a changé de nom.
Oui.
En fait, c'est l'équivalent du quartier Saint-Henri aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, il y a une statue de Louis Cyr dans le quartier Saint-Henri. Donc, ça, on le montre pas. On montre pas aussi le fait qu'il s'est ouvert une taverne, Louis Cyr, et qui amusait ses clients avec ses tours de force. Ça, on ne le montre pas non plus. Donc, il y a plusieurs raccourcis comme ça qui ont été faits dans le film. Ça enlève absolument rien au niveau de la qualité du film. Moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai beaucoup aimé le regarder. Je trouve que c'est un récit, oui, qui a des raccourcis, mais qui se tient super bien ensemble. Donc, les bouts qu'on a collés, ça amalgame bien ensemble. C'est juste que c'est pas la vraie, vraie histoire de Louis Cyr. Si vous voulez connaître la vraie histoire de Louis Cyr, fiez-vous pas juste au film. Allez vous chercher la biographie écrite par Paul Hall. Et je cite, ben en fait, je dis bien Paul Hall parce que il y en a une autre biographie, mais pas aussi bonne que celle de Paul Hall. C'est vraiment celle qu'il faut aller chercher pour avoir vraiment la vraie version de la vie de Louis Cyr. Puis tout ce qu'il a vécu, puis parce que c'était un homme d'affaires aussi, le Louis Cyr. Et il est parti de rien, il a quand même monté sa propre business, son propre cirque. Donc, allez vous chercher ça si vous voulez vraiment la vraie histoire. Mais au niveau du film, moi, je veux vraiment souligner aussi le travail des acteurs. Tu sais, Jean-Benoît, tu parlais, quand t'as vu Gravity, du rôle de Sandra Bullock.
Oui.
Du fait que tu croyais, tu voyais plus Sandra Bullock, tu voyais son personnage.
Antoine Bertrand, c'est incroyable. Physiquement, le package, tout, il ressemble à Louis Cyr. On le sent puissant, comme on le sent là, que les effets spéciaux, on s'entend qu'on est au Québec, puis il y a des limitations budgétaires là, mais design des costumes, tout, on se croit à ce moment-là et que c'est Louis Cyr.
Ouais, absolument. Puis moi, je te dirais que l'exploit d'Antoine Bertrand est à deux niveaux. Tu y crois en tant que Louis Cyr, mais tu y crois aussi en tant qu'homme fort. Moi, tu sais, c'est clair, là, les charges qu'il soulève dans le film, là, c'était pas les vraies charges, là, tu sais.
Ah, ouais?
Ben, je te le dis, il soulève pas genre 5000 livres sur son dos, mais tu y crois. Tu crois vraiment qu'il soulève ça. Puis c'est ça qui fait le brio d'Antoine Bertrand dans ce film-là. Moi, vraiment, là, moi, je connaissais beaucoup Antoine Bertrand pour ses niaiseries, là, dont, entre autres, la parodie de Miley Cyrus dans le dernier Bye Bye. Vraiment, dans Louis Cyr, là, on voit là, Antoine Bertrand qui peut être convaincant en tant qu'acteur dramatique. Même à la fin, je m'excuse, là, oui, c'est très, très... on en a mis beaucoup là, à la fin là, pour vous faire pleurer, mais moi, ça m'a touché, la prestation d'Antoine Bertrand à la fin. Fait que vraiment, là, le Antoine Bertrand est excellent dans ce rôle-là. Rose Maïté, je m'excuse, mais je suis pas capable de prononcer son nom de famille, mais celle qui fait la femme de Louis Cyr aussi, excellente dans son rôle. Tous les acteurs dans le film sont vraiment, vraiment très, très, très bons. Tu disais, les décors sont super beaux. On se croit vraiment à cette époque-là. Donc, chapeau au niveau de la réalisation, au niveau du choix du casting, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, mais je vous le dis, au niveau du film, voyez-le comme un espèce...
Un film.
Ben, ouais, comme un film, tu sais.
c'est vrai, c'est pas
une film. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ben, tu sais, juste pour vous dire, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur le fait que Louis Cyr était analphabète. Mais pourtant, là, tu sais, c'était pas si pire que ça, là. Tu sais, mais on mettait beaucoup on met beaucoup d'emphase sur le fait que Louis C est en alphabète, qui a un complexe d'infériorité par rapport à sa femme qui est très cultivée. Dans la vraie vie, c'était pas si pire que ça, là. Mais bon, ça, on l'a beaucoup, beaucoup exploité dans le film. Ce qui m'amène à vous parler des bonnies sur le Blu-ray. Les bonnies sur le Blu-ray, en fait, il y en a deux principaux que j'ai beaucoup aimé. C'est deux documentaires. Il y en a un qui porte sur le film, puis l'autre sur le personnage de Louis Cyr. Sur le film, j'ai beaucoup aimé retrouver les espèces d'anecdotes de tournage, dont, entre autres, Amélie Grenier, qui joue la femme de Louis... la mère de Louis Cyr. Et on dit que Louis Cyr tenait sa force de sa mère. Le problème avec Amélie Grenier, c'est qu'elle mesure 5 pieds. Donc, pas de quoi en faire une Wonder Woman, là. Fait que, dans le fond, ce qu'ils ont fait pour montrer qu'elle était, tu sais, assez imposante, parce que la mère de Louis Cyr était très imposante, elle marche sur des échassiers tout le long.
Donc, un peu comme Tom Cruise dans ses films.
Ça lui tente pas de prendre une femme plus grande?
Non, ben en fait, ça, il l'explique aussi parce qu'il trouvait qu'Amélie Grenier avait tellement le profil, puis tu sais, c'est une très bonne actrice, là, Amélie Grenier, mais ils se sont dit, c'est elle, mais il faut faire de quoi pour la rendre plus imposante, fait qu'ils ont fait ça. Ils ont mis des échassiers d'un pied, puis elle se promène avec ça. Mais ça, tu t'en rends pas compte, là, quand tu regardes le film, tu sais, elle a l'air à marcher normalement. Mais c'est des petites anecdotes comme ça. Un autre anecdote aussi, c'est que ils ont tourné le film à l'envers selon la barbe d'Antoine Bertrand. Donc, dans le fond, ils ont commencé, il y avait une barbe, puis ils ont coupé sa barbe à mesure, puis dans le fond, la première scène du film où ce qui est imberbe, ben c'est la dernière qu'ils ont tournée.
Poursuivre, parce que c'est plus long de pousser la barbe que de la couper. Là.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est des petites affaires comme ça que tu sais pas. On voit aussi l'entraînement d'Antoine Bertrand. On voit qu'il a reçu des conseils de Hugo Girard, qui est l'homme fort le plus connu, là, moderne, du Québec.
Monsieur BMR.
Ouais, monsieur BMR est rendu culturiste d'ailleurs.
Ouais, il a changé un peu de style d'entraînement.
Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, on le voit aussi, puis à un moment donné, c'est ça qu'ils disent dans le film, Hugo Girard croyait Antoine Bertrand quand il soulevait les charges, il croyait vraiment que c'était un homme fort. Fait que là, ils sont dit ça y est, là il a atteint le niveau où ce qu'on veut qu'il soit pour jouer son rôle.
Tu me permets-tu, Daniel, d'y aller avec deux petits points que moi c'est des petits bémols sur les films. J'ai adoré là, le film là. Wow, c'est un bon film québécois. On s'entend, c'est pas crazy. Là, on n'est pas dans cette gamme là de films, mais c'est un excellent film. Là, c'est pas pour rien que au box-office, c'était le film québécois le plus rentable là, de la dernière année. Deux notions. Toutes les statistiques qu'on donne sur les résultats de compétition de Louis Cyr, il y a beaucoup d'exagération. Entre autres, il y a une scène à Québec où est-ce qu'on dit qu'il est malade, puis écoute, le gars, il se défonce, puis il affronte son adversaire, puis il le déclasse facilement. Tu sais, on y a moyen d'avoir les chiffres de ces affrontements-là, puis la différence n'était pas si flagrante. Et après ça, ben j'ai trouvé que le côté rythme, ça allait très bien jusqu'au presque passé le trois quarts du film. Quand on arrive à la finale, c'est très lancinant, c'est très lent, c'est très, tu sais, ça perd beaucoup de rythme et j'aurais aimé qu'on coupe certaines scènes là-dedans ou que du moins on t'aide ça un petit peu plus là, parce que j'ai trouvé ça la finale vraiment lente là. Ça donne presque une fin un peu amère au film.
Oui, mais ça a fait brailler toutes les têtes blanches qu'il y avait dans le cinéma la première fois que je l'ai vu. Oui, effectivement, je suis pas mal d'accord avec tes deux points. Mais écoute, Louis Cyr, c'est un film que j'ai vu trois fois, puis je le reverrai encore. Là. C'est, en tout cas, moi, c'est mon film préféré, probablement québécois, depuis Crazy, je pense. C'est à ce point-là que j'ai aimé ce film-là. Mais comme je dis, si vous vous intéressez à la vraie histoire de Louis Cyr, tu sais, dans le film, on dit pas qu'il y a eu un enfant, là, un garçon, mais qui est mort à un an. Là. Ça, on le dit pas. Là. Fait qu'il y a des drames comme ça dans la vie de Louis Cyr. Il y a des passages de sa vie qu'on a volontairement coupé, puis qui sont dommages parce que, dans le fond, on s'est plus intéressé aux exploits d'homme fort du gars pour faire un film qui est plus divertissant qu'à sa réelle histoire qui passe peut-être moins bien à l'écran. Donc, qui aurait fait un film peut-être plus ennuyant. Fait que moi, je vous le dis, si vous voulez vraiment le package deal, là, le complément d'information, ben en fait, toute l'information, regardez le film, puis lisez la biographie de Paul Holt. Ça va vous faire un bon package pour connaître Louis Cyr.
Vas-y avec une note pour... parce que ça, c'est, on parle bel et bien du Blu-ray, là, donc le film plus les suppléments qui viennent alentour.
Là, je sais que tu seras pas d'accord avec ma note, là, mais je vous le dis, j'ai adoré ce film-là. Je le reverrai encore. Moi, je mets un solide 9.
Mais c'est correct, Daniel. C'est toi qui fais la critique. C'est ton opinion, puis c'est la tienne qui prime. Là.
Moi, j'ai trippé. J'ai trippé même quand j'avais ma commotion, je comprenais, fait que ça vaut un 9.
Ah, ben parfait, tant mieux. Moi, de mon côté, je vous disais quatre jeux que je vais faire des mini-critiques. Je veux revenir sur Gunman Clive, un jeu sur iOS que je vous avais déjà parlé. Tu sais, un cowboy qui s'en allait dans l'espace, qui tirait dessin là, comme sur du papier jauni, animé pratiquement à la main, là, du travail extrêmement bien fait. C'était un seul gars qui l'avait fait. Il est maintenant disponible sur Steam, sur PC et aussi sur 3DS. Donc, dans mes voyagements, je me suis amusé avec ça. Et sincèrement, le fait d'avoir des pitons, c'est mer et monde, là, c'est une autre aventure. Pas mal plus facile de traverser les gros monstres robotiques qu'on affronte tout au long du jeu. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu-là, je vous dis « Ah, ok, ouais, ça peut être intéressant. » Un genre de Metroid, genre, ou de jeu comme ça, là, où est-ce que tu tires, tu te promènes un petit peu là, dans les niveaux. Ça vous tentait, mais le fait de pas avoir de bouton sur l'iPhone, c'était une grosse réticence pour vous. Ben, sachez que il est disponible, il est vraiment pas cher, c'est autour de 4$ sur 4 ou 5$. Donc, allez-y, ça vaut vraiment la peine et le charme opère complètement musicalement et graphiquement. Je vous avais déjà parlé durant mon déménagement que en n'ayant pas de connexion, je m'étais retapé Trials Evolution. Jeu de moto là où est-ce qu'on doit traverser les épreuves avec des obstacles. C'est 4 pitons, mais qui devient extrêmement technique au fur et à mesure. Ben, je l'ai retraversé encore une fois dans le temps des fêtes, mais la version Gold Edition qui est disponible sur Xbox 360 et sur Steam. Moi, je l'ai eu sur Steam parce qu'il était en rabais. Ça nous donne tout ce qui est Trials HD, donc le premier. Le deuxième, donc Evolution. Et en plus, avec de nombreux, tout ce qui est Success Team, tout ce qui est les pointages, les classements à l'international contre les autres joueurs, les partages de pistes, parce qu'il y a des gens qui développent des pistes pour ce jeu-là, qui sont disponibles sur Internet. Partage de pistes qui sont facilitées avec les classements, les résultats de tout le monde. Donc, le package complet, là, la version Ultimate de Trials, c'est disponible, c'est pas cher aussi, il y a moyen de l'avoir avec des rabais sur Steam. Moi, encore une fois, j'ai du gros bonheur sale avec ça, là, facile, là. C'est toujours aussi plaisant, c'est tellement simple comme approche, puis finalement, on réussit tellement à nous amener des épreuves qui font ni queue ni tête, puis l'humour. T'sais, le but, c'est de survivre tout le long de la piste, puis à la fin, c'est sûr que tu meurs. Le but, c'est de te faire crever, mais une fois le fil d'arrivée passé, donc ça, c'est toujours bien, bien le fun. Aussi beaucoup d'épreuves qu'on a rajoutées. Exemple, on doit piloter un ovni. Ta moto devient un ovni et les contrôles restent les mêmes. Et pour avancer, il faut te donner du gaz avec le bon angle pour pouvoir aller d'une région à l'autre, pas t'écraser, des choses comme ça, et te rendre le plus loin possible. Donc, on réussit à faire des choses bien, bien intéressantes avec cette maniabilité. Sinon, ben, jeu que Daniel, toi, t'avais critiqué, Rayman Legend. Donc, on en parlait en dehors des ondes, un titre qui a tellement pas vendu, 65 000 exemplaires à travers le monde sur toutes les plateformes, donc PC, 360, PS3, Wii U. Ça devait être une exclusivité Wii U, mais à 65 000 pour toutes les consoles, on comprend Ubisoft de pas avoir voulu se limiter à une seule, ça aurait été catastrophique.
C'est mon grand sous-estimé de 2013.
C'est tellement bon, c'est tellement... agréable. C'est tout ce que Origin était, mais avec plus. On a des contrôles de plus avec le petit bonhomme vert qui se promène avec nous autres pour tasser des petits objets. On a ensuite les graphismes qui sont encore plus beaux. On a plus de niveaux parce que on peut débarrer des niveaux de Origin dans Legend. On a, écoute, c'est tellement agréable comme jeu. C'est tellement une belle aventure. En mon sens, à moi, Mario est dépassé. On est rendu à ce point-là. Quand on joue un Mario platformer 2D, pour moi, Rayman est rendu plus loin. Vous en offre plus. Il reste juste à débarrer des capacités. C'est à peu près la seule affaire que Mario se sépare de Rayman. C'est que dans Rayman, si tu as un tableau où est-ce que tu dois avoir une telle capacité, on va te la donner et tu vas la traverser. Ça te met une variété de gameplay qui est disponible. Sauf que dans Mario, ben dans le niveau, tu vas débloquer différentes capacités que tu peux perdre selon ce qui arrive, là, si tu te fais toucher ou quoi que ce soit. C'est à peu près la seule différence. Pour le reste, gros avantage à Rayman là-dessus. C'est tellement agréable. Et on a modifié un petit peu les petits êtres qu'il faut sauver et les lumineux, là, ceux qui sont dorés. Avant, on avait certaines séquences où est-ce qu'on avait des comment est-ce qu'il s'appelle, Daniel? Te souviens-tu des noms, là, ceux qui font office de scène, dans le fond, dans le jeu-là?
Office de... des looms?
Oui, les looms. Et avant, on avait toujours des looms normales, donc dorés. Et une fois de temps en temps, tu avais une séquence qui pouvait se débarrer spéciale où est-ce que tu avais un looms qui était rose qui comptait pour deux. Et si tu y allais dans le bon angle, pas dans le bon angle, mais un à la suite de l'autre... tu étais capable d'avoir x2 sur l'ensemble des looms dans la lignée. Là, maintenant, c'est un peu différent. C'est qu'on a des lignées de looms et tu as le premier qui est rosé. Ensuite, les autres sont dorés. Si tu y vas dans l'ordre, donc de gauche vers la droite ou dans le sens de la lignée, ben tu vas avoir x2 pour chacun. Si tu y vas dans le désordre, ils vont devenir tout simplement dorés et tu vas avoir un seul looms au lieu d'en avoir deux. Donc, c'est un petit ajout, une belle façon de voir différemment le jeu, puis ça va t'indiquer un petit peu les trajectoires à essayer d'utiliser. Beaucoup de des contre-la-montre dans ce jeu-là, il y en a qui sont extrêmement difficiles, qu'il faut y aller, là, c'est au millimètre près qu'il faut avancer. Donc, si vous avez l'occasion, vous êtes amateur de jeux de plateforme, n'hésitez pas avec Rayman Legend. Et ensuite, celui qui est vraiment ma petite critique de la semaine, c'est un jeu qui s'appelle Titan Souls. C'est un jeu qui est un... comment je vous dirais ça? C'est un univers, c'est un monde ouvert où on doit affronter des titans. Et là, si vous avez déjà eu une PlayStation 2 ou une PlayStation 3, vous vous dites, mais oui, mais c'est à peu près le même synopsis que Shadow of the Colossus. Ben oui, c'est à peu près le même jeu, mais c'est comme si on le mettait sur 2D. C'est un peu la même ambiance. On ne donne aucune indication. Tu te rends, tu essaies d'affronter les géants. Et après ça, ben voilà, tu sais. Sauf que il y a une particularité dans ce jeu-là. Tu n'as qu'une seule flèche que tu tires, faut que tu la ramasses pour pouvoir retirer, et tes adversaires, ça leur prend seulement un coup pour pouvoir les tuer, et vice-versa. Eux autres, ça leur prend seulement un coup pour te tuer. C'est un jeu qui se traverse extrêmement rapidement, c'est à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, selon votre capacité, votre niveau de gamer, mais c'est rien de bien, bien compliqué, là. Il y a un petit twist à la fin qui est bien, bien sympathique. La musique est écœurante, c'est vraiment très très bien fait de ce côté-là. C'est un jeu qui est une belle découverte, c'est une belle façon de voir le genre 2D. Graphiquement, il n'est pas joli. Quand tu observes chacun des endroits, chacun des détails du jeu séparément, tu te dis « Ouais, ok, c'est un peu ordinaire, on est dans le 8-bit, voire peut-être très très rétro, là, mais tu sais, un peu grossier. » Sauf que l'ambiance générale est géniale. C'est un jeu qui est pas joli, mais qui globalement est beau. Parce qu'on réussit à t'intégrer dans cet univers-là, puis ça fait sens. C'est une belle petite découverte. Un petit 20 minutes, vous traversez ça sur votre navigateur Internet. Un bon petit plaisir de la vie. Donc, quand vous avez un petit peu de temps entre deux travaux au bureau là, durant votre pause. Ça peut être une belle petite lubie à aller faire. Titan Souls. Et j'irai avec un 7.5 sur 10. C'est vraiment un express là. Et c'est un travail qui a été fait, je pense, c'est par une équipe de 3. Ça a été fait en 72 heures dans le cadre d'un concours. Ça démontre le pourquoi c'est aussi limité, mais ça donne surtout envie que l'équipe se remette à travailler sur un titre semblable, beaucoup plus grand, et qu'on nous en offre plus. C'est comme une petite bouchée là. Tu sais, quand tu t'en vas d'une soirée d'un 5 à 7 là, puis là t'as de quoi là sur un bretzel là, puis tu manges ça, puis tu fais comme c'est bon, c'est une petite bouchée. T'en prendrais genre 4-5, mais tu sais, t'en as juste un échantillon. Tu sais, t'en voudrais plus, mais c'est ce qu'on t'offre pour le moment. Donc ça donne le goût que la petite équipe de 3-4 gars qui ont travaillé là-dessus nous en donne plus. Donc ben cool de ce côté-là. Voilà, donc c'était mon express jeu que j'ai traversé dans le temps des fêtes.
Ben c'est bien.
Express.
C'est express, hein?
Faites yeah. Ça vite. C'est quoi, à peu près une minute par jeu?
À peu près. Mais tu sais, c'est parce qu'on avait souvent joué à chacun de ces jeux-là. Puis la semaine prochaine, on va revenir avec une vraie critique plus complète. Je vais pouvoir aider Luc avec sa critique de Splinter Cell.
Yes, sir.
Qu'il va faire dans le prochain show. Il y a peut-être un film pour vous autres avec Keanu Reeves. C'est. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est Man of Tai Chi. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, ça peut être bien, bien cool. Si vous êtes amateur de combat, tu sais, un bon film de Jean-Claude Van Damme des années 80, là, où est-ce que c'est, on dirait un jeu vidéo, puis un affrontement en arrière de l'autre, puis tu sais, chaque adversaire, c'est comme un stage, là. Ben, c'est à peu près ça, Man of Tai Chi, avec Keanu Reeves. Donc, je vous en parle plus en détail la semaine prochaine, ça devrait être le fun.
Fait qu'un film de Jean-Claude Van Damme, pas de Jean-Claude Van Damme, finalement.
Ouais, à peu près.
C'est pas pire. Je pensais que t'allais dire 42 Ronin. Mais,
j'ai pas cité ce film-là. Mais,
il s'est pratiqué sur Man of Tai Chi, puis après ça, il est allé faire 42 Ronin.
Peut-être. Avant de se quitter, les garnements, j'aimerais que vous me disiez où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le web. Luc?
Oui, ben moi, il y a sur le site de cjuap.com pour écouter les 22 épisodes d'Histoire de Gamer. Et puis, on va faire, avec le podcast auto, on va faire une émission spéciale sur le Salon de l'Auto de Montréal que j'irai visiter le 16 janvier, la journée des médias. Donc, on va vous parler un petit peu d'auto. Puis, on va voir, là, peut-être qu'il y a des rumeurs que peut-être que ça pourrait revenir, le podcast auto. Ça va dépendre des développements des prochaines semaines. Je vous tiens au courant.
Hey, t'as décroché un petit quelque chose par rapport justement au Salon de l'Auto de Montréal?
Ben oui, j'ai reçu un courriel d'un contact slash peut-être, c'est de bonne connaissance qui travaille pour une compagnie qui fait des relations publiques pour Ford du Canada. Et puis, il m'a demandé, son client qui est Kijiji, qui est un site de vente de stock usagé, m'a demandé d'écrire des articles pour leur blog corporatif. Donc, je vais écrire 3 articles pour le compte de Kijiji sur le Salon de Montréal. Je vous donnerai les liens quand ça sera en ligne.
Yes, on plaira ça sur le show avec grand plaisir.
Ben oui, ça a rentré comme une grosse surprise, mais tellement agréable.
Et Twitter?
Twitter, ben c'est @Calazormo, si vous voulez m'écrire. J'ai vraiment délaissé Twitter dernièrement, là, mais je me promets de me reprendre en 2014 quand j'aurai plus de temps. Puis sinon, ben il y a le compte Facebook de la réalité augmentée. De temps en temps, si vous voyez en parenthèse Luc, c'est moi qui tweet.
Ça donne... On essaie de mettre les noms en avant. Quand c'est plus personnel, on met les noms en avant.
Ben, si je veux écrire des bêtises, je marque JB.
Oui, mais c'est ça.
Si jamais je veux écrire quelque chose d'intelligent, ce qui est rare, je marque Luc. Ah, puis en passant, juste comme ça, les jeux gratuits pour le Xbox Live Gold, ce qu'on appelle Games with Gold, qui était... supposément fini en décembre, mais ça continue. Présentement, vous pouvez avoir le merveilleux jeu Sleepin' Dogs jusqu'au 15 de janvier. Donc, dépêchez-vous. Puis le 16, c'est Tomb Raider Child of Light, qui est le petit jeu de Tomb Raider là, avec Lara Croft. Ça joue à deux, quelque chose comme ça. C'est un jeu c'est un jeu un peu, je pense, à la Diablo. On voit dessus le dessus. Là. C'est pas le Tomb Raider régulier, mais ça va être gratuit, ça, jusqu'au 31 janvier. Puis après ça, j'imagine qu'il va en avoir d'autres. On verra ça quand on approchera du mois de février, mais c'est le fun que ça continue.
Hey, si vous avez jamais joué à Sleeping Dog, profitez-en pendant qu'il est gratuit.
Ouais.
C'est comme un mix entre GTA, un film de Bruce Lee... puis Assassin's Creed.
Ouais, c'est un sujet de bande passante, t'es très bien dépassé.
Ah non, c'est vraiment. Daniel, de ton côté, on te retrouve où sur le web?
Ben attends, je veux juste te faire déprimer avant. Là.
Vas-y, vas-y.
Sleeping Dog, je l'ai, puis il est encore emballé.
Ben écoute, ben, t'as le droit d'autre chose.
T'as-tu encore ta facture? Retourne-les, puis download-les gratis.
Non, non, non. Je préfère économiser ma bande passante pour d'autres choses dont je ne dévoilerai pas les détails. Fait que si vous voulez me retrouver, ben vous pouvez lire la Bible. C'est mon histoire. Donc, il y a ça.
Le film s'en vient, mais avec des raccourcis.
Ouais, mais ils ont commencé à faire, tu sais, des séries comme l'histoire de la nativité, puis des choses comme ça. J'aime ça, tu sais, ils s'inspirent de moi, puis je touche rien en cash, en tout cas. Fait que il y a ça. Sinon, de façon plus modeste, vous pouvez
me plus réaliste aussi.
Ouais, beaucoup plus réaliste. Vous pouvez regarder le ciel en quête d'inspiration. Mais non, vous pouvez me retrouver sur Twitter @DracoADG. Donc, nombre de followers qui n'a jamais été aussi élevé. 345. Je vise le 346 d'ici la fin du mois.
Attends, je vais aller le suivre, ça sera pas là.
Objectif réaliste.
Oui, oui. Beaucoup plus modeste qu'au début. Fait que y a ça. Sinon, sur Affaires de gars, donc Affaires au pluriel, je publie régulièrement des articles, jeux vidéo, criminalité, c'est ça. Je publie, vous pouvez me lire. Interagissez donc aussi avec moi, j'aime ça. Au niveau de mes articles, là, je parle. Là.
Ben, dans la vie de tous les jours aussi, là.
Oui, oui, oui. Vous pouvez toujours faire une prière aussi. D'habitude, je réponds.
Puis, okay, okay. Rappelez-y à chaque jour aussi de regarder en avant quand il descend les escaliers.
Oui, c'est une bonne idée. Parce moi, que malgré qu'il soit un dieu, semblait-il, il ne flotte pas.
Non, il flotte pas. Il a toute une tête. Tête qui commence à être beaucoup cassée, mais il est là. Mais non, je ne descends plus les sacs de poubelle.
Daniel, il est comme Jésus. Il marche sur l'eau, mais là, l'eau est gelée. Il y a de la misère un petit peu.
Un petit peu, beaucoup, oui. Oui.
Et toi?
Jean-Benoît?
Ben oui. Moi aussi, là. Je gère le compte officiel de la réalité augmentée sur Twitter, @RealitéHog. Sinon, ben, mon compte personnel, @GangG_B. Je rappelle qu'on est diffusé maintenant sur Radio H2O. Vous cherchez ça dans Google. C'est une web radio avec une grille horaire, avec plein de podcasts super intéressants et dont nous autres. Diffusion, la première diffusion, c'est les samedis à 20h et rediffusion les dimanches à 20h, donc sur les ondes de Radio H2O. On est toujours aussi sur la zone technoculturelle et aussi sur Affaires de gars, bien sûr. En plus d'être sur iTunes, ben, vous cherchez Réalité augmentée ou encore podcast Réalité augmentée, vous allez nous trouver avec grand bonheur. Et bien sûr, on a une page Facebook, facebook.com/realitéhog. Et les trois, on a les clés là-dessus. Là, fait qu'on jase avec vous autres avec grand bonheur. N'hésitez pas. Vous avez des suggestions, vous avez des idées, vous voulez savoir notre opinion sur une patente ou dire que vous n'êtes pas content de tel propos. Louis, c'est excellent. J'ai bien, ouais, non. Vous avez des plaintes, faites ça par là. Puis. On verra si on répond, là. Puis de quelle façon.
On verra. C'est ça. JB va filtrer.
Oui, on va filtrer.
Je m'excuse d'avance pour les plaintes à connotation religieuse qu'on va.
Notre public sensible,
hein? Oui.
Il faut y faire attention. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour cet autre élément de la réalité augmentée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Luc, merci Daniel.
Merci à toi.
Et merci aux auditeurs, vous, oui, vous qui faites le succès de ce beau programme, d'avoir été des nôtres. Et on se dit à une prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Salut tout le monde.
Bye.
Bye.